Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why, this is why, this is why I'm hot, hot.
Ce qu'Internet fait à l'amour. Bonsoir à tous, bienvenue dans Soft Power, magazine des industries créatives et numériques de France Culture, en direct jusqu'à 20h30. Liquid Love, ce qu'Internet fait à l'amour, entre parenthèses aussi, et au sexe. Ce soir, nous avons choisi de consacrer entièrement cette émission aux sites de rencontres, aux applications de drague, à la dépendance sexuelle de ces outils, à la sexualité aussi des adolescents et des adolescentes, ainsi qu'au porno qui se généralise et à la prostitution qui migre sur Internet. Des sujets importants qui montrent une transformation profonde, transformation de fond, de l'amour et du sexe, grâce ou à cause au numérique, et ce qu'on appelle l'amour liquide, donc liquid love. Beaucoup de sujets ce soir, des sujets positifs et des causes d'optimisme, et puis des sujets difficiles liés au harcèlement ou à la prostitution que nous allons essayer de traiter avec nos invités. Emmanuel Julien, vous êtes journaliste spécialisé, vous avez écrit notamment la série Trop pressé sur l'accélération de la société, réalisée par Adrien Pouillard, et notamment un épisode de cette série était consacré aux relations amoureuses. C'était sur Arte, et vous animez également le site d'information sur l'érotisme à Paris. Son nom, je vous laisse le dire.
Paris Derrière, parisderrière.fr.
Emmanuel Julien, à ses côtés, Emmanuel Paquette qui sourit d'ailleurs.
Non, c'est le titre.
Voilà, journaliste à l'Express. Vous n'avez pas des sites comme ça, vous, à l'Express?
Non, pas encore.
Nous serons également par téléphone avec la psychothérapeute Esther Perel, qui vient de publier « Je t'aime, je te trompe », « Repenser l'infidélité pour réinventer le couple » aux éditions Robert Laffont, ainsi que la journaliste Judith Duportail, qui nous rejoindra également en direct depuis Berlin. Et puis à 20h, toujours sur ce sujet, votre invité innovation, Zoé Sfez, sera ce soir.
Teddy Truchot, le fondateur en 2009 d'un site qui a beaucoup fait parler de lui, qui s'appelle Glidden, et qui revendique donc d'être un site de rencontre pour des gens qui ne sont pas des célibataires, donc sont en concubinage ou qui sont mariés, avec un énorme, disons, effet buzz à l'époque, qui lui vaut aujourd'hui 4 millions d'utilisateurs, dont 2 millions en France, puisqu'il est présent aussi notamment dans plusieurs pays d'Europe, et notamment avec beaucoup de succès en Italie. On parlera avec cet entrepreneur qui a lancé depuis d'autres sites de rencontres, notamment aux États-Unis, puisque les sites de rencontres et leur succès sont quand même un petit peu un des savoir-faire français.
Soft Power français,
les Soft sites Power français par le site de rencontre. On va en parler, on en consomme beaucoup et on en fabrique beaucoup aussi.
20h10, le numérique et politique. Le débat de ce soir sera également consacré au même sujet, ce qu'Internet fait à l'amour et au sexe. Que peuvent faire les politiques? Et je recevrai Séverin Naudet et Jean-Marc Germain. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power de ce soir. Cette émission est réalisée par Alexandra Longuet, avec en régie Inès de Bruyne. Elle a été préparée par David Lavaux, avec pour les réseaux sociaux Pierre Ledamani, car vous pouvez également suivre cette émission sur les réseaux sociaux, sur Twitter, au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify, ainsi que sur Instagram, Tinder, Medium, Facebook, LinkedIn, Adopte un homme en podcast, et sur France Culture jusqu'à 20h30 en direct. Soft Power, 19h04. Alors ce soir, nous avons beaucoup de sujets dans cette émission. Liquid Love, l'amour liquide, ce qu'Internet fait à l'amour et au sexe. Beaucoup de sujets dans une émission que nous allons, émission spéciale Sex and Love, que nous allons organiser en cinq séquences. C'est un peu des séances. Cinq parties, on commencera par les sites de rencontres et les apps. On parlera ensuite de la révolution et des évolutions des pratiques amoureuses, avec notamment une petite séquence consacrée à la sexualité des jeunes, une sorte de tabou, de non-dit. On parlera ensuite des besoins de régulation et comment est-ce qu'on peut réguler ces sujets. On évoquera enfin le porno et la prostitution. Voilà pour le sommaire de cette émission. Commençons peut-être par un état des lieux, une sorte de cartographie, Emmanuel Paquette, Emmanuel Julien, Zoé Sfez. Les sites de rencontre, vous le disiez, Zoé, sont nombreux. Et en particulier, il y a une sorte de savoir-faire, de French touch, si on peut dire, dans ce secteur. Comment est-ce qu'on pourrait les présenter en fonction des genres, Emmanuel Paquette?
Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a plus de 2000 sites de rencontres et applications, puisqu'il y a d'une part les sites internet et d'autre part les applications, même si les deux systèmes et les deux services ont tendance à fusionner. Et donc pour des types d'usages qui sont totalement différents, puisque sur un smartphone on peut être géolocalisé une personne qui peut nous intéresser. Donc ça, c'est
donc ça veut dire qu'elle est par exemple à 100 mètres ou 500 mètres ou 1 km autour de chez soi.
C'est ça, exactement. Et donc c'est plus vrai sur des applications mobiles, même si ça peut également exister sur l'internet fixe chez soi. Donc là on tombe directement sur des applications du type Tinder ou Grindr. Et puis après, il y a tout type d'applications qui peuvent aller d'affinités en termes politiques, d'affinités, puisqu'on en parlera tout à l'heure, mais par exemple, les Insoumis ont leur propre site de rencontre. Donc ça peut être des affinités politiques, ça peut être des affinités intellectuelles, ça peut être aussi des orientations sexuelles. Donc il y a à peu près tout. Tout est possible et tout est ouvert sur les sites de rencontre, avec une forte segmentation qui s'est développée en même temps que la maturité du marché. Il faut savoir par exemple que entre 2010 et 2018, selon un sondage de l'IFOP qui a été publié en début d'année, il y a maintenant un Français sur quatre qui a utilisé, qui s'est inscrit sur un site de rencontre. C'était beaucoup moins au début des années 2000. Donc on voit aujourd'hui une démocratisation aussi de ce type de service et une forme d'acceptation. Maintenant, il devient relativement légitime d'être sur ces sites. Il n'y a plus, comme avant, de freins.
De tabous.
De tabous.
Ouais. Emmanuel Julien, peut-être sur cette cartographie.
C'est très foisonnant. Après, c'est vrai qu'on prévoit qu'en 2030, à peu près 80% des personnes se seront rencontrées via des sites de rencontres.
Hein. Ça reste un pronostic, on verra.
Oui, mais bon, voilà, ça va faire partie maintenant de la vie pratiquement de tout à chacun. Après, ça ne veut pas dire que ces sites ne créent pas parfois du malaise, qu'il va peut-être falloir les améliorer d'un point de vue éthique. Notamment, on peut laisser dans le vide quelqu'un lors d'une conversation. Ça crée un peu de souffrance, enfin même parfois beaucoup de souffrance, et ça peut même isoler en fait assez paradoxalement. Donc l'idée, ça va être aussi de créer des applications qui respectent bien les individus et qu'on tombe pas dans une consommation uniquement de l'autre.
Zoé Sfez.
Mais effectivement, on a un panorama très riche. On en avait parlé dans notre émission sur les applications à la fin de l'année 2017. Les Français sont particulièrement consommateurs de ces applis de rencontre, plus que notamment les Américains, qui ont, par exemple, dans les top 10, chez les Français, il y a quasiment toujours une appli de rencontre, alors qu'aux États-Unis, c'est souvent des applis de commerciales. Et on peut quand même se dire, effectivement, que ce marché est en pleine explosion. On va en parler d'un point de vue business. C'est une véritable jungle. C'est extrêmement lucratif. Ça fait partie des secteurs les plus lucratifs sur Internet. Et c'est assez intéressant de voir quand même qu'en France, la plupart des sites de rencontres qui marchent bien sont des applis ou des sites françaises. Donc notamment, évidemment, on en a parlé, Mythique, qui a été un leader, qui aujourd'hui a été racheté, mais qui était française, qui est en complémentarité avec Tinder, puisqu'ils appartiennent au même groupe, Tinder n'étant pas français. On a aussi Adopté un Mec, on a Appen, on a Once, qui sont des sites français. Glidden, on en a parlé tout à l'heure, avec effectivement une segmentation du marché, donc pas mal de différences entre elles, beaucoup d'investissements sur la technologie, beaucoup d'options, on va en parler, des premiumisations, des focalisations de certaines applis sur certaines catégories de population. On a de plus en plus des applis pour seniors, des applis pour les beaucoup plus jeunes, et donc c'est assez intéressant de voir comme Mythique a peut-être, disons, démocratisé le concept au début des années 2000, avant d'être peut-être un peu dépassé, et qu'aujourd'hui on est vraiment dans une espèce de fièvre qui fonctionne particulièrement bien en France et en Europe du Sud. C'est quand même pas inintéressant de le dire.
Mythique, qui a été créé par Marc Simoncini, donc une start-up française revendue à Match.com. Match.com est détenu par IAC, c'est un groupe américain, une holding américaine qui détient entre autres aussi Vimeo. Donc finalement, Mythique aujourd'hui n'est plus que la version française d'une certaine manière de Match.com, comme vous le disiez à l'instant, Zoé Sfez. Et ce groupe détient aussi, donc outre Mythique, Match, Tinder, OkCupid et d'autres sites de ce type. Emmanuel Paquette, il y a tellement d'applications qu'il faut même parfois utiliser des comparateurs de sites de rencontres.
Oui, alors il y a un comparateur français qui s'appelle LACSE, L-A-C-S-E, qui justement essaye de créer des catégories entre les sites des rencontres et d'orienter les utilisateurs vers tel ou tel type de site de rencontre en fonction de ses envies du moment ou de ses envies tout court. Puisque comme on le disait tout à l'heure, les premiers sites de rencontre au début des années 2000, c'était vraiment, entre guillemets, pour trouver en tout cas une compagne ou un compagnon pour le reste de sa vie. Aujourd'hui, on voit que ça se destine plus totalement qu'aux célibataires. Il y a des gens en couple, il y a des sites spécialisés sur l'infidélité, donc justement pour faire des entraves au couple. Il y a des sites qui permettent même de rencontrer, par exemple, il y a un site Rencontre Obèse, par exemple, ou pour des cougars. Donc on voit une hyper-segmentation, comme on le disait tout à l'heure, en fonction de différents types de typologies. Et puis ça suit aussi les évolutions de la société, puisqu'aujourd'hui on a des applications comme Bumble, par exemple, qui a été créée par une ancienne de Tinder. Et Bumble, aujourd'hui, donne la main aux femmes. C'est elles qui choisissent ou non de rentrer en contact avec un homme, et pas l'inverse. Donc c'est considéré aujourd'hui comme une des applications féministes, justement, de rencontre, puisque ça donne plus de pouvoir au sexe féminin. Et donc on voit aussi que ça suit la tendance de la société actuelle de redonner du pouvoir aux femmes et un peu moins aux hommes.
Mais Adopt-A-Mec le faisait déjà.
En France, oui, ouais. Oui.
Dans la série, puisqu'on parle justement d'Adopt-A-Mec, il s'agit d'un site fondé par deux Français, donc encore indépendants, ou encore une application comme APN, ça s'écrit A-A-P-P-N, qui a été fondée par des Français et qui est également encore indépendant. Emmanuel Paquette, si on s'intéresse au modèle économique en général de ces sites de rencontres, de ces applications de rencontres, les applications étant généralement sur smartphone, comment ces sites et ces apps se rémunèrent ?
Alors il y a eu plusieurs modèles. Le modèle économique du début, c'était un peu le modèle de la discothèque. C'est-à-dire les femmes pouvaient s'inscrire gratuitement. Mm-hmm. En revanche, les hommes devaient payer.
Donc il n'y avait pas de boisson.
Et là, rien de nouveau, rien de neuf sous le soleil. C'était on appliquait en fait les anciennes recettes à la vie virtuelle. Donc ça, c'était la première vague des sites de rencontres. Après, il y a eu les applications mobiles qui, elles, étaient quasiment entièrement gratuites. Puisque là, pour la première fois, Tinder a lancé un service qui s'appelle Tinder Gold en fin d'année dernière, qui a été une application la plus téléchargée et qui permet justement de donner des fonctionnalités supplémentaires aux utilisateurs, notamment de savoir qui vous a, entre guillemets, apprécié ou qui a pu passer directement sur votre profil sans s'arrêter. Donc, il y a quand même des fonctionnalités nouvelles qui permettent d'acquérir une grande base d'utilisateurs avec du gratuit. Et puis après, une fois qu'on a cette base d'utilisateurs, c'est un peu comme le modèle de Google d'ailleurs, de se dire quel modèle économique je vais mettre en place. Et là, on voit des modèles économiques sur un peu plus proche de ce qu'on voit aujourd'hui sur LinkedIn, sur des sites professionnels. C'est-à-dire on paye pour avoir plus d'informations.
La premiumisation.
Emmanuel Julien.
Je suis un petit peu sceptique sur le fait que tous ces sites arrivent à vivre parce que, on n'est pas non plus sur Tinder, ok, les grands, ok, mais les petits qui sont vraiment sur des segments très particuliers, je suis toujours étonnée, je me demande comment ils arrivent à se financer. Quoi.
Se monétiser,
oui. Oui, oui.
Mais alors c'est intéressant, je lisais une interview du fondateur de Mythique dans la Tribune qui expliquait justement comment il y avait un vrai marché de la premiumisation. Donc Tinder, effectivement, vous l'avez dit Emmanuel, maintenant il y a aussi la possibilité de revenir en arrière si on n'a pas matché avec quelqu'un mais qu'on veut le faire. Il y a la possibilité de passeport, ce qui est intéressant pour Tinder, c'est-à-dire que vous pouvez payer pour aller au-delà de la géolocalisation qu'on vous assigne, donc c'est 160 km, donc pour pouvoir potentiellement, donc en même temps c'est intéressant, c'est avoir la base de données de Tinder mais plus servir de la géolocalisation. Après, vous dites que vous doutez de ça. En réalité, dans les sites, c'est ce que disait d'ailleurs le fondateur de Mythique, qui maintenant reste un des sites payants et les plus chers, qui disait qu'en fait, il y avait une partie des utilisateurs qui avaient plus confiance dans les sites pour lesquels ils payent. Donc, il suffit que vous soyez sur un petit créneau, mais que vous ayez un abonnement assez cher. Hein, il y en a certains, c'est 12 euros par mois. Et d'ailleurs, on va en parler, mais évidemment, souvent, c'est plus votre abonnement est long. Il y a quand même une distinction entre les sites qui font payer par pack, c'est-à-dire vous avez un nombre de likes que vous pouvez envoyer à des femmes et vous pouvez l'utiliser sur un an. Mais il y a aussi de plus en plus, et c'est ce que fait Tinder, des abonnements où vous payez à la durée.
Pour six mois, par exemple,
ce qui évidemment a des effets pervers, on va sans doute en parler, qui est que vous continuez à y retourner même si vous avez trouvé l'âme sœur.
Ce que vous avez payé, vous continuez à chercher.
Exactement. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, vous en parliez Emmanuel, sur ce côté les hommes payent et les femmes payent, il faut quand même redire quelque chose de très important. Il y a une grande opacité aujourd'hui qui persiste sur le nombre d'utilisateurs. Ils communiquent difficilement, ou s'ils communiquent tous ces sites, c'est avec des informations dont on ne sait pas vraiment, par exemple, adopte un mec avait été attaqué par Mythique en 2013 en expliquant que la campagne de publicité d'Adopte un mec qui disait 10 millions d'utilisateurs, ça pouvait pas être vrai, et que en fait en réalité en disant ça, Adopte un mec probablement comptabilisait le nombre d'utilisateurs depuis ses débuts. Donc tout ça reste des enjeux, et évidemment l'autre gros enjeu, c'est combien de femmes, combien d'hommes. Et on sait que là-dessus, sur le pourcentage d'hommes et de femmes, dans leur grande majorité, les sites de rencontres sont plus fréquentés par les hommes, à l'exception d'Adopte un mec. En tout cas, c'est ce que disent ces fondateurs. Il n'y a pas d'obligation de transparence, donc ça, c'est aussi un vrai enjeu, et dans la communication, et dans la manière de faire payer les utilisateurs de ces sites de rencontres.
Pour terminer cet état des lieux, cette cartographie en ouverture de cette émission sur ce qu'Internet fait à l'amour et au sexe, je termine peut-être par une petite projection un peu plus internationale, puisque tous ces sites sont très territorialisés d'une certaine manière. Les leaders du secteur, on l'a dit, comme Match.com ou Plenty of Fish, POF, sont nord-américains, mais ils déclinent leurs services en s'adaptant aux langues et aux codes amoureux locaux. Les sites d'online dating, comme G1 en Chine, OkCupid en Russie, Mythique en Europe, on l'a dit, ou Badou, pour les communautés latino, par exemple, n'arrivent guère à se développer hors de certaines régions en raison des spécificités sentimentales locales. Au Japon, de telles applications sont souvent reliées à Facebook. C'est le cas de Match Alarm, de Omiai ou de Pairs, qui vous recommandent par exemple que chaque matin à 8h, une personne qui matche votre personnalité à partir de votre réseau d'amis Facebook et au-delà parfois de ce cercle. Les critères décisifs restent malgré tout votre ville de naissance et celle où vous résidez. Dans le monde arabe, le site Al-Ashira s'est spécialisé dans les rencontres halal et prétend se transformer en site qui est conforme à la charia, même si au passage ce site est hébergé, on ne sait jamais, à Amsterdam. Là encore, les rencontres y sont classées par pays. Ailleurs, le critère sera la religion, la race ou l'orientation sexuelle, mais ces niches s'inscrivent systématiquement dans une dimension territoriale. Ainsi, G-Date s'intéresse essentiellement aux rencontres entre juifs, alors que Gaydar s'intéresse, comme Gay Romeo ou Manjam, aux homosexuels. Dans ces cas-là, on entre sur le site par une approche communautaire, mais immédiatement après, on choisit son pays ou sa ville pour se positionner sur un territoire précis. L'ancrage donc local par excellence. Zoé Sfez, cette semaine, vous avez fait un reportage justement sur ces sujets.
Tout à fait, et ce reportage est destiné à illustrer la très grande forme de ce marché français des sites et des applis de rencontres. C'est Serendip dont je vous parle aujourd'hui, une appli française qui a déjà été lancée mais qui lance une grande campagne de publicité dès la semaine prochaine. Son nom est une abréviation du concept de Serendipity, vous savez, ce concept anglo-saxon qui désigne
le fait
de découvrir quelque chose scientifiquement, voilà, peut-être quelqu'un de façon inattendue ou quand on se préparait à faire autre chose. Ici, concrètement, il s'agit d'une appli qui propose à ses utilisateurs non pas des photos de profil, mais de participer à des activités en compagnie d'autres célibataires. Et c'est uniquement une fois qu'on a participé à une activité qu'on pourra échanger avec l'utilisateur qu'on aura rencontré dans la vraie vie. Une façon d'éviter une partie des écueils des applis de rencontre, m'expliquait Caro. C'est une des utilisatrices qui était venue à cette interview à l'invitation du fondateur de l'appli par le biais justement d'un événement sur cette appli. À 42 ans, elle a fréquenté notamment Attractive World et Happn. Je lui ai demandé comment et pourquoi elle s'était intéressée à Serendipity.
En fait, moi, je l'ai trouvé en cherchant justement quelque chose de différent des sites de rencontres, en cherchant des sites où on peut partager des activités. Parce que pour avoir un petit peu été sur des sites de rencontres, je trouve que du coup, la rencontre est surfaite. Les gens montent déjà un peu dans les tours, s'imaginent des choses sans du tout avoir laissé de place au hasard et à la création ou pas d'une alchimie. Alors que partager des passions, des activités, etc., de toute façon, on va être content de l'activité qu'on va faire. Et puis, si jamais il y a quelqu'un qui a une alchimie, top. Puis s'il n'y a pas d'alchimie, on s'en fiche, on a échangé sur des sujets qui étaient intéressants. C'est pour ça que j'ai trouvé que l'application était bien, en fait. Voilà comment je me suis retrouvée là-dessus, pas spécialement dans l'idée site de rencontre, site de partager des passions. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai plusieurs amis qui sont comme moi, qui n'en peuvent plus des sites de rencontre où vous avez 50 profils qui défilent, 50 photos. Vous avez presque une indigestion à la fin, vous avez envie de partir en courant. C'est horrible à dire, mais je peux vous montrer la timeline d'application. Vous en pouvez plus, il y a quelque chose, c'est un peu viandard, j'ai désolé. Ah voilà, donc là c'est quand on arrive, quand on a créé son compte, mais en fait vous arrivez directement sur la liste des événements qui sont variés, donc vous pouvez aller à la plage, vous pouvez aller faire un stage de théâtre, vous cliquez sur la personne,
Et alors du coup, est-ce que vous vous êtes dit, moi je vais peut-être regarder qui participe, et est-ce que je regarde un petit peu qui sont les gens qui participeront ?
En fait, il y a vraiment les deux démarches. Si on est vraiment intéressé par l'événement qui correspond à une passion ou à quelque chose de culturel ou à une passion sportive, on regarde l'événement en se disant que de toute façon, on passera un bon moment. Donc ça dépend vraiment du type d'événement. Là, c'est une soirée, il y a 90 participants, je vais regarder qui participe et je vais regarder un peu les photos de qui participe. Il faut dire la vérité quand même.
Qu'est-ce que vous avez mis, vous, sur votre profil ?
Mon profil, moi je suis une passionnée de kitesurf, donc j'ai mis une photo de moi en kitesurf. On lit juste que je suis à Paris, que j'ai 45 ans, que j'aime, donc ça veut dire que je suis intéressée par les événements art et culture, les jeux, éventuellement les spiritueux.
Voilà. Serendip, lancé cette semaine sur Android et qui compte déjà 2000 abonnés sur iOS, vise explicitement les plus de 35 ans, plus exigeants, avec un plus grand pouvoir d'achat, car la plupart des activités proposées sur le site sont payantes. C'est d'ailleurs de là qu'est venue l'idée du modèle économique de l'application créée par Christophe Legland, ingénieur de formation, qui est parti, pour l'imaginer, d'un constat personnel.
Moi, ce qui s'est passé, c'est que, comme beaucoup d'entre nous, je suis arrivé à être... Je suis passé dans le côté effectivement célibataire après de nombreuses années avec la maman de mes trois enfants. Et donc du coup, je suis retourné vers les sites de rencontres. Au tout début, je trouvais ça génial puisque je rencontrais des gens et ça fonctionnait plutôt bien. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était extrêmement laborieux, compliqué, frustrant. Ça prenait beaucoup de temps parce que j'étais mis en contact avec 100 personnes. Eh bien, il y avait que deux de ces personnes-là dans lesquelles on pouvait avoir une relation sympa. Et dans Serendip, on est sur 100% de rencontres agréables et d'expériences en tout cas agréables. Mais en tout cas, au-delà de cette rencontre agréable, on pouvait faire une rencontre encore plus agréable si affinité, si effectivement on se rencontrait et qu'il y avait quelque chose qui se passait entre nous, mais physiquement, puisque Serendip est basé sur la rencontre physique, c'est-à-dire que on va pas discuter avant la rencontre, mais on discutera après s'être rencontré physiquement. Donc on se sera jaugé sur pied et là on pourra se dire mais oui, lui ou elle me paraît effectivement intéressant pour aller plus loin. Quand on arrive sur Serendip, on est invisible nous-mêmes tant que l'on n'est pas participant à un événement. Et surtout si on fait entre guillemets du window shopping ou que l'on est passif, eh bien on reste à l'écart. Au niveau du modèle économique, en fait, on offre gratuitement l'application aux célibataires. Donc ils peuvent discuter, ils peuvent aller à des rendez-vous, créer des rendez-vous totalement gratuitement. En fait, tout notre modèle économique est surtout basé en fait sur le B2B, donc focalisé sur le professionnel qui propose ces événements. Donc nous, en fait, on prend basiquement un markup sur les ventes des activités. Aujourd'hui, personne propose ce genre de modèle économique, et ce qui nous permet aussi de libérer complètement la pression que mettent les sites de rencontre aujourd'hui à faire payer les célibataires pour discuter avec les gens. Et nous, on se libère complètement de cette problématique.
Alors, cette problématique, on va en parler évidemment, qu'il y a forcément toujours des effets pervers. Intéressant de remarquer que du coup, sur le papier, cette appli de rencontre a plutôt un modèle économique d'entreprise de loisirs. À noter aussi que Mythic a lancé aussi les soirées mythiques depuis 2012. Il y en a plusieurs, et ce qu'expliquait le fondateur, c'est que de ce fait, ce type de site et d'appli deviennent plus que des sites, des plateformes et des vrais lieux de mise en commun avec aussi d'autres types de salariés qu'il faut engager.
France Culture,
Soft Power, Frédéric Martel.
Voilà, il est 19h23, je voulais dire, en direct sur France Culture. Alors, on a parlé des sites de rencontres et des apps disponibles. Comment est-ce que, Emmanuel Julien, vous êtes journaliste spécialisé, Emmanuel Paquet, journaliste à l'Express, au SFS, comment est-ce que vous voyez la révolution des pratiques amoureuses du fait de cette offre, finalement, infinie sur le web, sur les réseaux sociaux ou sur les apps ?
Mais effectivement, il y a un souci, c'est que les possibilités sont infinies. Donc, vous rencontrer quelqu'un.
L'abondance.
Et, voilà.
Plenty of fish, comme
disait. On peut se dire qu'il y a toujours mieux. Peut-être les fiches suivantes, il y aura quelqu'un d'encore mieux. Et on a cette tendance à vouloir toujours plus. Et donc, ça peut mener à une addiction. Puis, il y a quand même quelque chose, c'est que les sites de rencontres, qu'est-ce qu'ils veulent, eux ? Ils veulent qu'on reste sur leur plateforme. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on rencontre l'amour, quelque part. Donc, il y a quelque chose...
Un petit hiatus économiquement.
Voilà. Donc, effectivement, il y a un risque d'abus. Or, on ne se laisse plus le temps aujourd'hui de la rencontre. Il faut à peu près une vingtaine de jours pour le développement de l'ocytocine, de l'attachement. Et aujourd'hui, on se laisse plus le temps...
L'ocytocine.
Oui, c'est cette hormone de l'attachement. Et c'est vrai que quand on a toutes ces possibilités-là, on ne laisse plus le temps à l'amour d'arriver et de se poser.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors au niveau de l'impact que peut avoir ces services, il y a une étude du MIT qui a montré deux tendances. Alors il faut prendre ça quand même avec des pincettes. La première, c'est de dire que les sites de rencontre ont un impact aussi sur les gens qui sont déjà mariés. Puisque ça peut justement, on a pu découvrir, on en parlera tout à l'heure, mais lors de piratage de certains services, que des gens mariés étaient inscrits sur ces sites-là. Donc ça peut avoir
C'est une chose à laquelle on n'avait pas pensé, bien sûr.
Non, mais on pensait pas. Non, mais c'est la majorité. Enfin, beaucoup de gens mariés, ils sont inscrits. Donc ça peut déstabiliser aussi, d'une certaine manière, des couples déjà établis, ou en tout cas. Déstabiliser un peu plus des couples établis. Donc ça, c'est le premier phénomène que révèle cette étude du MIT. Le deuxième, c'est que ça pourrait aussi avoir un impact sur les relations entre guillemets interraciales, c'est-à-dire en permettant des rencontres qui, d'ordinaire, n'étaient pas possibles, puisque la plupart des communautés restent souvent entre elles. Et là, ça permet justement de la mixité, plus de mixité sociale et plus de mixité, j'utilise le terme racial, même si c'est pas le bon terme, mais entre personnes de couleurs différentes.
Alors sur ce sujet, justement, il y a un contre-exemple, on pourrait presque dire, en Inde, puisqu'en Inde, il existe de nombreuses applications de rencontres également, qui créent des rencontres très souvent, mais qui sont et qui restent très lié au système de caste, où on constate par exemple étrangement que les mariages arrangés retrouvent une nouvelle vie sur Internet et les réseaux sociaux, alors même qu'on pourrait penser qu'ils disparaissent. Ainsi, par exemple, le site de rencontre matrimoniale bharatmatrimony.com, ça s'écrit B-H-A-R-A-T, Bharat, affirme permettre le mariage de 50 000 Indiens chaque mois et il reproduit sur le web les catégories traditionnelles de la société indienne au lieu de les atténuer. On peut y retrouver les castes, les sous-castes, les hiérarchies, les classes sociales et peut-être même certains préjugés parfois de la société indienne. Il favorise donc d'une certaine manière l'endogamie. Un autre site de rencontre indien très influent, shaadi.com avec deux A, montre le rôle actif que les parents continuent à jouer dans le processus de sélection du partenaire, alors même que ces rencontres se font sur Internet entre des Indiens par exemple de plusieurs régions ou l'un vivant en Inde et l'autre aux États-Unis. Quant aux applications toujours indiennes pour smartphone dédiées à ce qu'ils appellent le match horoscope, elles permettent de prédire, en fonction des constellations de planètes, les bons mariages. Nous sommes par téléphone avec Esther Perel. Esther Perel est psychothérapeute, elle est belge, installée à New York, et avec nous par téléphone depuis Israël. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Alors vous êtes spécialiste des relations de couple et de la sexualité. Vos conférences TEDx cumulent plus de 20 millions de vues. Vous avez été élu meilleur speaker de South by Southwest en 2018. Votre dernier ouvrage, Je t'aime, je te trompe, est disponible en français depuis le 3 avril chez Robert Laffont, est en cours de traduction dans une vingtaine de langues. Pourquoi est-ce que le sujet, madame, des relations est-il si important, selon vous, dans notre société ?
Mais je pense qu'on vient de l'entendre aussi, c'est-à-dire que pendant si longtemps, les décisions étaient prises pour nous. Toutes les grandes décisions étaient prises pour nous. Ce que nous faisions, notre travail, la personne avec qui on allait vivre, si on allait avoir des enfants, combien d'enfants on allait en avoir. Aujourd'hui, on doit tout négocier et tout décider nous-mêmes. Donc en fait, il n'y a jamais eu autant de choix et autant d'incertitudes et parfois du doute de soi pour pouvoir savoir si on prend la bonne décision. Le poids du moi, en fait, n'a jamais été plus lourd.
Alors, vous dites aussi que, par exemple, le smartphone a beaucoup d'impact sur ses relations, sur la vie du couple. On peut être avec son amant, échanger, par exemple, avec son mari au même moment.
C'est la première fois, effectivement, que nous pouvons être infidèles sans devoir quitter la maison.
C'est factuel.
Ce ne veut pas dire que je justifie quoi que ce soit, mais c'est assez représentatif en fait. On n'a jamais eu plus facile à tromper, on n'a jamais eu plus difficile à garder le secret.
Que dire des applications et des sites de rencontres, notamment sur le langage utilisé, les pratiques, comme ce qu'on appelle et que vous pouvez définir, nous aider à définir, le ghosting de ghost, c'est-à-dire fantôme.
Oui, c'est-à-dire que On a toujours été rejeté et on a toujours été abandonné. C'est pas que les expériences humaines en soi soient nouvelles. Mm-hmm. Mais il y a un phénomène à travers le digital qui fait que, après avoir parlé avec quelqu'un ou texté avec quelqu'un pendant 300 fois d'affilée, je peux du tac au tac, en fait...
disparaître, il peut disparaître.
Effacer quelqu'un, le faire disparaître complètement. Et si on parlait justement de ces hormones d'attachement, de l'oxytocine, enfin, de tout ce qui fait que petit à petit je développe un certain rapport, un intérêt, je commence à participer à une histoire qui est en train de se tisser, parce que 300 textes c'était un début d'histoire, et quand on me coupe comme ça... ça donne un tel sentiment aux gens qu'ils sont entièrement
effacés. Ils ne comptent pas.
Ils ne comptent pas. C'est-à-dire que c'est une crise de sens. Déjà, on a un tel besoin de trouver un sens, puisque tout est individualisé. Mais alors là, on est complètement dérobé de sens.
Dans ces discussions, dans ces dialogues, vous voyez quelque chose comme, je ne sais pas, sur les sites de rencontres, moins de courtoisie, moins d'efforts à cause de la multiplication des échanges. Au niveau des mots, qu'est-ce que vous constatez ?
C'est pas la multiplication des échanges. J'ai écrit un blog un jour sur le ghosting, puis il y a d'autres termes en anglais qui sont simmering et icing. C'est-à-dire, c'est toutes sortes de comportements, ce qu'on appelle d'ambiguïté stable. C'est qu'à la fois, on est assez connecté que pour ne pas être seul, mais pas trop connecté que pour perdre sa liberté. Et c'est tout ce système d'intermédiaire, en fait, comme un avion qui circule sans se poser vraiment. C'est moins le fait qu'on a le choix et c'est plus le fait qu'on ne voit pas l'autre. On n'est pas en présence de la personne à qui on va faire du mal, en fait. On a moins de responsabilité, on assume moins parce que quelque part cet autre est abstrait, je ne l'ai jamais vu et puis je ne le sens pas vraiment et puis je vois pas ses yeux, je vois pas son visage plein de douleur et donc je ne suis plus dans un processus interactif par rapport à ce que je suis en train de dire ou de faire à l'autre.
Esther Perel, vous publiez chez Robert Laffont dans quelques jours « Je t'aime, je te trompe », repenser l'infidélité pour réinventer son couple. « Je t'aime, je te trompe », ça veut dire que l'adultère est une forme d'amour ?
Non, certainement pas. D'ailleurs, le livre est sorti en fait en France le 5 avril, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a l'habitude de vraiment définir l'infidélité comme symptôme d'une relation qui ne va plus. Plus du tout, ou d'un problème soit dans le couple, soit dans la personne même. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un tas d'infidélités qui sont souvent commises par des gens qui sont bien dans leur relation, en fait, qui n'ont aucune envie de partir, ou certainement pas de quitter la famille, mais qui ne veulent pas nécessairement quitter la personne avec qui ils sont, mais qui veulent parfois quitter la personne qu'ils sont eux-mêmes devenus. Et c'est pas tellement qu'ils cherchent quelqu'un d'autre comme le fait qu'ils cherchent à retrouver des parties perdues d'eux-mêmes. Parce que quand on choisit un partenaire, on choisit une histoire et souvent on se retrouve avec un texte qu'on n'a pas toujours envie de jouer.
Pour terminer, vous êtes par téléphone depuis Israël, Esther Perel. Est-ce qu'on est toujours à la recherche de l'âme sœur ?
Vous savez, je suis en train de faire une tournée un peu mondiale et oui, on cherche de plus en plus l'âme sœur. Et on la définit en fait dans les termes qui étaient avant dédiés à Dieu. On veut retrouver une plénitude, on veut retrouver une extase, on veut retrouver un sentiment d'appartenance, on veut trouver des racines, on veut trouver un sens. En fait, c'est tout ce qu'on recherchait avant dans le sanctuaire sacré, quoi. Et c'est assez paradoxal de rechercher cette âme sœur à travers une consommation romantique digitale. C'est un paradoxe quelque part, en fait. C'est la méthode et le but ne sont pas nécessairement toujours bien affinés.
Esther Perel, le livre s'appelle « Je t'aime, je te trompe ». Il vient de paraître chez Robert Laffont, sous-titré « Repenser l'infidélité pour réinventer son couple ». Tenez, Emmanuel Paquette, je vous l'offre ce livre, c'est un cadeau.
Jean, merci. C'était aussi une déclaration du coup ?
Absolument, sur France Culture en direct à 19h33. Was born like this, is born like this. Immaculate conception, I transform like this, perform like this. Was yours, you a new weapon. I don't contemplate, I meditate. Then off your fucking head. This that put the kids to bed. This that I got realness. I just kill shit 'cause it's in my DNA. I got millions, I got riches building in my DNA. I got dark, I got evil that rises. Ce lundi, l'artiste de hip-hop Kendrick Lamar, que l'on écoute à l'instant, a reçu aux États-Unis de manière très inattendue le prix Pulitzer pour la musique. En apparence, ce prix consacre l'un des meilleurs rappeurs du moment. Et pourtant, lorsqu'on s'intéresse à cette récompense, on peut y voir trois éléments qui nous intéressent ici à Soft Power. D'abord, c'est la première fois qu'un musicien qui n'est ni classique ni jazz reçoit une telle consécration, le prix Pulitzer donc étant une sorte de prix Nobel du journalisme, de la littérature et de la photographie. Que le rap soit récompensé avant même le rock, la pop ou la country, est un signe intéressant. Ensuite, c'est évidemment la consécration par la haute culture, entre guillemets, d'un style de musique jugé commercial, populaire, mainstream, ou disent ses détracteurs, de simple divertissement. Un peu comme lorsque Bob Dylan avait reçu le prix Nobel de littérature, des intellectuels et des artistes, dit de qualité, s'étaient émus que le prix Pulitzer récompense un musicien, ou là en l'occurrence un rappeur en tête des ventes d'albums et de streaming, en dépit d'ailleurs du succès de la bande originale ou à cause du succès de Black Panther que M. Lamar a sorti récemment et dont on a déjà parlé dans Soft Power. Enfin et surtout, la récompense de Kendrick Lamar va à un artiste de hip-hop de 30 ans, très innovant, extraordinairement original, preuve que la musique populaire peut être complexe, expérimentale, artistiquement exigeante et sophistiquée. Ainsi légitimée par la plus hiérarchique des institutions américaines, jugée par vous-même, chers auditeurs, de France Culture, avec un montage de plusieurs titres de cet album Damne de Kendrick Lamar qui a reçu cette semaine le prix Pulitzer. Darling, I've told you many times, and now I'm telling you once again, just to remind you, sweetheart, that my I'm willing to die for this shit. I done cried for this shit. Might take a lie for this shit. Put the Bible down and go out for a knife for this shit. D.O.T. my enemy won't catch a vibe for this shit. Ayy. Why God, do I gotta suffer? Pain in my heart, carry burdens full of struggle. Why God, do I gotta bleed? Every stone thrown at you, resting at my feet. Motherfucker, I got winners on the way. You ain't shit without a buddy on your belt. You ain't shit without a ticket on your plate. You ain't sick enough to pull it on yourself. You ain't rich enough to hit the light of skate. Tell me when destruction gonna be my fate. Gonna be a freak, gonna be a fake. Peace to the world, let it rotate. Sex, money, murder, our DNA. France Culture, Soft Power. Frédéric Martel. 19h36 en direct sur France Culture. Ce soir, on parle de ce que Internet fait à l'amour et au sexe. Liquid Love, l'amour liquide. Nous sommes avec Emmanuel Julien, journaliste, Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, et vous, Zoé Sfez, et nous allons avoir dans un moment par téléphone encore une invitée. Parlons maintenant de la sexualité des jeunes et aussi les questions peut-être qui se posent en termes de régulation et de contrôle. Je prendrai juste un exemple. J'ai interrogé un proviseur de lycée et en l'occurrence d'ailleurs de collège cet après-midi pour préparer cette émission, et il me faisait part de des situations qui se passent dans un collège aujourd'hui normal, entre guillemets, en France. Beaucoup de cas où des jeunes filles, là on est dans un collège, donc on est sur des moins de 16 ans, des jeunes filles qui, pour commencer une relation avec leurs copains ou dans des échanges comme ça, notamment sur Snapchat, envoient à la demande du garçon, volontairement, peu importe, des photos d'elles, dénudées, parfois un peu, parfois beaucoup, parfois complètement nues. Et puis, soit que la relation n'a pas lieu, soit qu'il se fâche, soit que le garçon ou la fille d'ailleurs s'amusait, c'est vrai aussi de filles qui demandent ce genre de photos à des garçons, la photo se met à circuler à travers le collège et dans la classe et puis etc. Au point parfois où la fille, quand elle arrive, notamment dans la cour de l'école, se retrouve moquée. Ah, je t'ai vu toute nue, etc. etc. Au point où parfois, selon ce proviseur, il faut faire des conseils de discipline pour sanctionner les élèves fautifs, le cas échéant, demander aux parents de porter plainte et parfois même assez fréquemment arriver à changer l'élève de lycée, de classe déjà, et parfois de collège ou de lycée, pour lui permettre tout simplement de retrouver une sorte d'anonymat de sa personnalité. Une réaction peut-être sur, au fond, cette sexualité ou ces problèmes qui se passent au niveau déjà du collège, donc très jeune, qui est un peu une sorte de sexualité des jeunes ou des problèmes de sexualité des jeunes qui sont un tabou et un non-dit très souvent, et que les parents évidemment ne connaissent pas.
Oui, le problème, c'est effectivement de savoir ce qui se passe dans le smartphone de ses enfants. Là, il y a Apple qui a supprimé une application. En fait, c'est une fausse calculatrice et que ça permettait aux jeunes de cacher leurs photos, quoi. Et Apple a décidé de supprimer pour justement que les parents puissent avoir accès au smartphone. Après, le problème, c'est quand même, là, c'est, on peut pas contrôler.
Quand il a 13-14 ans, souvent les parents ne regardent plus, ne veulent plus regarder ce que. C'est un peu une atteinte à la vie privée, eux-mêmes, il y a une sorte de blocage, non, Emmanuel Paquette, sur ça?
Oui, effectivement, parce que entre la possibilité qu'offre la technologie de contrôle, puisqu'on peut géolocaliser son enfant, on peut même de temps à autre modérer aussi sur certains appareils ce qu'on peut installer sur un terminal. Il y a aujourd'hui des terminaux qui permettent justement une utilisation relativement restreinte des applications qu'on peut installer, mais c'est vrai que quand on arrive sur des populations d'adolescents, c'est compliqué de leur dire qu'on va leur donner un terminal qui sera entre guillemets sous surveillance. Puis il faut savoir aussi que Snapchat, quand même, à l'origine, le Snap, c'était justement créé par Evan Spiegel. L'idée, c'était de faire disparaître la photo
au bout de quelques instants. Secondes, ouais.
Alors, il se trouve qu'il est possible de faire une capture d'écran maintenant sur les iPhones ou un Android, et après d'envoyer la capture de l'écran. Mais normalement, les messages doivent s'effacer. Donc, c'était justement pour éviter ces débordements.
C'est ce qu'on appelle le sexting, c'est-à-dire vous envoyez des photos sexuelles à généralement des copains ou des proches.
C'est ça. Alors, la contrepartie, c'est qu'on pouvait se permettre à peu près tout, puisqu'on savait que ça allait être effacé dans la seconde ou la minute, et que du coup, on pouvait se dire qu'aucune trace ne serait laissée, et donc ça pouvait laisser.
Donc là, il y a aussi une vraie éducation. Au fond, oui, aux enfants, ça. Qu'il faut faire, leur dire finalement des vidéos ou des photos, ça ne s'effacera pas, donc grande prudence. Quoi.
Bah effectivement, alors je pense qu'il y a deux aspects dans ce que vous venez de dire. Il y a évidemment le manque de contrôle des parents sur et souvent le manque d'envie de voir ce que fait son enfant sur ces questions-là, de la même manière que souvent les parents sous-estiment à quel point leurs enfants sont exposés au porno ou ne souhaitent pas le savoir. Et évidemment, il y a la question de l'éducation, probablement aussi parce que le sexting étant devenu matériellement beaucoup plus simple, fait vraiment véritablement partie aujourd'hui de la manière dont les jeunes, et d'ailleurs les moins jeunes, échangent. C'est presque devenu une donnée de base. Snapchat, évidemment, l'ayant compris. C'est intéressant, il y avait eu un exemple d'un site anglais qui a été lancé au Royaume-Uni, qui s'appelle Yellow, qui a été lancé il y a quelques mois au Royaume-Uni, qui clairement vise les ados de moins de 18 ans, principalement les moins de 16 ans, et qui demande, pour s'inscrire, il faut demander, c'est l'identifiant de Snapchat, et il faut la géolocalisation. Donc il y a eu une espèce de branle bas de combat au Royaume-Uni en disant mais c'est pas possible, c'est un site de rencontre, donc garçon-fille, qui est clairement destiné aux ados et aux pré-ados, est-ce que c'est pas pousse au crime, avec une partie des associations de parents qui étaient divisées, avec une partie qui disait mais c'est pas possible, et une autre partie qui disait mais en même temps est-ce que c'est pas déjà ce qui se passe, et est-ce qu'il vaut mieux pas que ces applis existent, qu'elles soient contrôlées, qu'il y ait évidemment toute une régulation pour les prédateurs sexuels qui permettent des signalements, etc., plutôt qu'à la sauvage et de manière presque cachée comme c'est le cas aujourd'hui. Alors elle a pas été lancé en France, mais on sait qu'ils y pensent.
Emmanuel Julien.
Peut-être aussi donc ces jeunes filles qui se prennent en photo dénudées, peut-être à ce moment-là, il faut juste pas se prendre en photo le visage.
Mais voilà, c'est ça.
Tout simplement. Et peut-être, les parents peuvent éventuellement glisser quelques mots là-dessus de façon tout à fait pudique. C'est toujours très compliqué de parler de ça avec ses enfants, mais ça peut être une solution tout simplement. Mais
on peut quand même noter que ça reste toujours un problème pour les filles, et pas pour
les
garçons.
Parce que c'est toujours là.
C'est quand même.
Non, mais il y a eu aussi. Il y a eu beaucoup de cas de, notamment, alors c'est un autre sujet, mais le revenge porn, notamment pour le coup des filles, il y a eu des cas notamment de suicide même, où vous avez des relations sexuelles, c'est souvent pour des ados un petit peu plus âgés qui ont filmé leurs relations sexuelles, et après la fille a diffusé cette vidéo, qui est évidemment très, très, très condamnable, mais c'est des choses qui se font, Emmanuel Paquette.
Oui, d'ailleurs, il y a même l'arsenal législatif est en train d'évoluer, puisqu'il y a une loi en Californie qui a été passée justement pour sanctionner le revenge porn. Il faut savoir que pour la première fois, il y a une amende de 6,25 millions de dollars qui a été.
Ça fait cher pour un revenge porn.
Ouais. Alors, le système est pour condamner en fait le contrevenant. Est relativement simple, c'est-à-dire que vous déposez un copyright sur la photo de vos parties intimes, ce qui fait que la personne qui la diffuse est considérée comme enfreignant le droit d'auteur. Et de ce point de vue-là, c'est comme si vous téléchargez illégalement un film ou une musique.
On aurait peut-être pu trouver quelque chose de plus simple, non?
En tout cas, c'est l'arsenal législatif qui aujourd'hui sous-tend le revenge porn aux États-Unis. Il suffit donc de porter plainte pour violation du droit d'auteur.
Et c'est aussi ce qui a coûté au site Gawker, qui avait diffusé une vidéo d'une célébrité célébrité dans ses ébats sexuels. Là, pour le coup, la célébrité a attaqué Gawker et le site, ainsi que tout le groupe média, a dû faire faillite devant les nombreuses, l'importante pénalité qu'ils allaient recevoir. Un mot peut-être, puisqu'on est au stade de la séquence des régulations de ce qu'on peut faire. On y reviendra tout à l'heure après 20h dans le débat avec deux responsables politiques, Séverine Audet et Jean-Marc Germain. Mais on a tout un tas de problèmes, des arnaques sentimentales, des leaks de comptes avec des photos et aussi le problème Grindr, Emmanuel Paquette.
Oui, alors il y a beaucoup de sujets en fait aujourd'hui concernant la régulation. Le plus gros sujet récemment qu'on a pu voir, c'est des failles de sécurité qui ont été exploitées par des hackers, par des pirates, pour pouvoir atteindre la base de données de différents sites, notamment Ashley Madison, qui était un site américain en 2015 qui était en train de se coter en bourse. Donc la cotation a été suspendue et n'a jamais eu lieu, hein, pour le coup. Ashley Madison qui permettait des infidélités dans son couple. Et il se trouve que le groupe de hackers qui se faisait appeler Impact Team a mis la main sur 30 millions de contacts et qui les a mis en libre circulation sur Internet. Donc ça, c'était une première...
Donc on allait voir si sa femme ou son mari était inscrit sur ce site.
Exactement, même s'il y a des hommes politiques, puisqu'on pouvait avoir accès directement aux mails professionnels des gens qui s'étaient enregistrés, puisque dans un couple, les gens s'enregistraient avec leurs mails professionnels pour ne pas se faire repérer par leur conjoint ou leur conjointe. Donc on a pu repérer même des sites de certains ministères en France, hein, pour le coup, qui étaient inscrits sur Ashley Madison. Tout ça était public, hein, donc on pouvait le retrouver assez facilement.
Et les fantasmes sexuels aussi, évidemment. Il y avait l'intégralité de l'affiche.
Exactement. Ouais. Et il y a eu un autre hacking qui était celui de FriendFinder. Donc c'était que 4 millions de comptes, la même année en 2015. Et là, c'était effectivement un site qui était plutôt basé sur réaliser des fantasmes, etc., qui lui aussi s'est fait pirater. Donc là, on touche directement à des données personnelles. Il faut savoir aussi que la CNIL en France, sans aller jusque-là, a lancé des enquêtes sur plusieurs sites en 2015, dont justement Mythique, Attractive World, Adopte un mec, Easy Flirt. Tout simplement parce que sur les fiches, on demande des orientations sexuelles, on peut aussi demander son orientation religieuse, et que tout ça, sans demander au préalable le consentement de la personne, et sans l'avertir du danger que ça peut avoir de donner des informations privées sur ce site-là, au cas où il y a un hacking un jour.
Et pour terminer sur ça, Emmanuel Paquette, autre problème, les arnaques sentimentales, et puis la question notamment de Grindr.
Oui, alors sur les arnaques sentimentales, ce qu'on appelle le scamming romance, donc ça c'est en pleine effervescence aux États-Unis notamment. Le FBI a annoncé qu'il y avait eu 15 000 plaintes déposées en 2016 pour 230 millions de dollars qui ont été détournées. Donc l'idée, c'est simplement que quand vous allez sur Tinder, on vous demande, vous rentrez en contact avec une personne, cette personne vous envoie des photos un peu osées et vous demande en contrepartie de vous aussi d'envoyer des photos ou des vidéos assez osées. La personne qui fait ça après se trouve prise au piège puisqu'on lui dit que si elle ne paye pas, eh ben ces photos ou ces vidéos se retrouveront instantanément sur Internet. Et donc les gens payent pour éviter de voir leur vie privée mise à nu, si je puis dire, sur le web.
Quant à Grindr, pour terminer, Grindr étant une sorte de Tinder pour, de nature homosexuelle, qui est préfiguré, puisque au fond Tinder est une copie de Grindr, c'est une application géolocalisée.
Oui, exactement. Et là, en fait, sur l'affiche, le statut VIH était demandé. Donc, est-ce que vous avez fait un test? Si oui, quand? Alors, vous n'étiez pas obligé de répondre. Mais en tout cas, ceux qui ont pu répondre à cette demande ont vu ces données accéder à deux applications tierces sans en avoir donné leur consentement. Et donc, des sociétés tierces pouvaient avoir accès à
qui avait le VIH, des entreprises.
Des entreprises, oui, exactement.
Et sachant que Grindr vient d'être acheté par les Chinois, ça pose un certain nombre de problèmes de données.
Et donc, l'association AIDS a demandé à lancer le hashtag Delete Grindr, donc effacez, retirez-vous de Grindr, en disant que ça ne respectait pas la vie privée, justement, des homosexuels.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
19h47 en direct. Alors nous sommes par téléphone maintenant avec Judith Duportail. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Berlin. Vous êtes journaliste au Guardian, journal britannique. Alors racontez-nous tout simplement ce que vous avez fait il y a quelques mois, en octobre dernier. Vous avez fait une expérience liée à nos questions de sites de rencontres. Ça concerne Tinder. Une expérience qui vous a relativement marqué.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai demandé l'application d'avoir l'accès à l'intégration, à mes données personnelles, les données qu'elle détenait sur moi. En fait, l'idée m'est venue un petit peu plus d'un an, tout simplement. Je dînais avec ma colocataire et on regardait Tinder machinalement ensemble. Ma coloc, elle avait le même âge que moi. Et on se rend compte qu'on n'avait pas du tout accès au même profil, enfin, que l'application ne présentait pas du tout les mêmes hommes. Et on s'est demandé pourquoi, tout simplement. Et je commençais à mener un petit peu mes recherches jusqu'à apprendre que du coup l'application proposait une expérience personnalisée de vous présenter des profils en fonction des infos qu'elle avait sur vous. Et là je me dis que j'ai envie de savoir quelles infos l'application a sur moi. Je me doutais pas que ça allait être un petit peu compliqué au départ, puis après j'ai quand même pas lâché le fil. J'ai d'abord commencé par écrire à la CNIL, donc il y a un peu plus d'un an, qui m'a toujours pas répondu. Ensuite, j'ai écrit à une association de consommateurs en France pour leur demander quelle marche suivre. Ils m'ont répondu, nous, on parle pas anglais, débrouillez-vous. Et de toute façon, c'est pas une application française, donc ça nous étonnerait que vous trouviez quelque chose. J'ai ensuite écrit à l'ICO, qui est la CNIL anglaise, parce que le Tinder appartient, comme vous l'avez dit, à la société Match, et du coup, Match a des bureaux à Londres. L'ICO m'a dit, oulala, on n'a aucune idée de où sont physiquement stockées vos données, parce que ça, c'est important de savoir, pour savoir quel droit vous avez, où sont physiquement stockées vos données dans le monde, donc on sait pas comment vous aider. Et finalement, c'est avec l'aide d'un data activiste qui s'appelle Paul-Olivier Dehaye et d'un avocat que j'ai pu prendre contact directement avec le service juridique de Tinder. Et après 6 mois à peu près de recherche, j'ai reçu un fichier PDF par mail de 800 pages.
Alors, vous avez reçu vos données de Tinder et vous en avez fait un article pour The Guardian, Judith Duportail. Qu'est-ce que vous avez découvert?
Alors, du coup, je reçois ce fichier de 800 pages et donc j'ai passé une après-midi entière déjà à décortiquer et à lire. Et à l'intérieur de ce fichier, je vois donc une espèce de présentation sur qui je suis. Quel est mon âge? Quel est mon niveau d'éducation? Où est-ce que j'habite? Quelle est la dernière fois que je me suis connectée? À quelle heure? Quels sont mes goûts? Quels sont mes centres d'intérêt? Quels âges ont les hommes qui m'intéressent? Et l'intégralité, évidemment, de toute ma... Enfin, pas évidemment, d'ailleurs, l'intégralité de toute ma correspondance depuis la première fois où je me suis connectée. L'expérience est intéressante à plein d'égards. Déjà, me réveille personnellement, en termes d'introspection, de voir écrit noir sur blanc tout ce que vous dévoilez sur vous-même sans vous en rendre compte, parce qu'on se connecte plusieurs fois comme ça, brièvement aux applications, on a dans le coin de la tête l'idée qu'on dévoile des choses sur nous. Mais de voir une réalité physique et matérielle de ce que c'est, déjà, ça impacte. Puis ensuite aussi, on se rend compte de notre chose, c'est qu'on a une image bien plus idéalisée de soi-même, de son comportement sur ce type d'application. On oublie très vite qu'on est aussi la personne qui répond pas, ou la personne qui ghost, ou la personne qui copie-colle les messages. Et ça aussi, c'est une expérience intéressante.
Quels sont les risques, peut-être pour terminer, Judith Duportail, quels sont les risques? Qu'est-ce que vous en déduisez finalement d'avoir vu comment Tinder collectait vos données?
En fait, il y a deux risques, il y a deux enjeux qui sont très importants. Le premier enjeu dont vous avez déjà parlé, c'est un enjeu de sécurité. Ce que Tinder précise noir sur blanc dans ses conditions d'utilisation, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que vos données soient sécures. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles soient jamais hackées ou jamais revendues. Enfin, faut pas s'attendre.
C'est une bonne nouvelle dès le départ. Okay.
Ouais, c'est ça. Donc,
et ensuite,
déjà, ça, vous imaginez tout ce que ça peut engrainer. Et ensuite, il y a un deuxième enjeu qui est presque un enjeu de société. Ou un enjeu presque philosophique, c'est que Tinder aujourd'hui c'est 50 millions d'utilisateurs revendiqués, ou c'est l'application la plus rentable de l'Apple Store. C'est pas juste une application pour du sexe facile ou des rencontres, c'est pour moi c'est un phénomène de société. Et après vos données, donc c'est comme ça qu'aujourd'hui les gens se rencontrent. Ma génération, c'est exactement comme ça qu'on se rencontre. Et cette expérience, elle est en permanence façonnée en fonction de votre comportement sur l'application, et vous ne pouvez pas savoir quelles conséquences ça a, pourquoi votre expérience est modifiée. En fait, si vous voulez, on compare souvent Tinder à un bar de célibataires. Mais en fait, il faut s'imaginer que Tinder, c'est un bar de célibataires. On vous scrute, on vous observe en permanence, on observe vos réactions. Et en fonction de ça, on décide qui vous avez le droit de rencontrer ou pas, qui a le droit ou pas de rentrer dans ce bar. Et les conséquences, en fait, sur votre vie, sur votre libre arbitre, elles sont immenses. Vous pensez arriver sur une application, en fait, vous arrivez dans un univers borné pour vous-même.
Merci infiniment Judith Duportail, vous étiez en direct par téléphone depuis Berlin, journaliste au Guardian. Vous avez également d'ailleurs contribué à un collectif, qui s'appelle comment ce collectif? Ah, elle a disparu. Alors on vient d'évoquer un certain nombre de points, peut-être on peut terminer sur les deux derniers sujets que nous voulions évoquer ce soir, à savoir la pornographie et la prostitution. Peut-être d'abord Emmanuel Paquette sur la pornographie, il y a un grand leader du secteur qui s'appelle YouPorn, qui a d'ailleurs tout un tas d'autres sites. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce modèle économique et aussi de la puissance de ces réseaux sociaux?
D'une part, ces sites-là sont détestés par la production hollywoodienne des films X traditionnels, puisque pour
qui
eux,
a réduit leur modèle économique.
Voilà, donc ça a un impact direct sur une industrie l'industrie du porno de la côte ouest américaine. Donc ça a un impact direct pour le coup, effectivement, puisque il est essentiellement financé, les sites sont essentiellement gratuits, donc financés soit par de la publicité, soit aussi pour la mise en relation avec des caméras, où là vous retombez sur un modèle kiosque, celui quasiment du Minitel du début des années 90, où on payait à la minute en fonction du temps de connexion. Donc on revient sur un modèle un peu similaire aujourd'hui sur Internet, sur les sites porno. Donc c'est un modèle kiosque payant. Et donc il y a un taux de transformation entre les gens qui arrivent et qui regardent du porno gratuitement et qui à un moment donné prennent leur carte bleue pour visionner des caméras en direct et chatter avec une personne.
Sur le porno, il y a aussi des pornos très spécialisés, notamment vous avez fait une enquête sur le porno islamiste.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les sites pornographiques, on trouve des choses qui, moi, m'ont totalement dépassé parce que je ne pensais pas.
Vous ne saviez pas que ça existait.
Non, exactement. Donc, on parlait d'hypersegmentation des sites de rencontres, mais sur les sites pornographiques, il y a à peu près tous les fantasmes existants. Donc, certains qu'on peut imaginer, d'autres pas du tout. Et effectivement, j'avais demandé à certaines plateformes les recherches.
Vous n'avez jamais eu beaucoup d'imagination.
Non, cela dit, non, pas du tout. Surtout dans cette matière, dans la matière-là. Donc, j'ai pu demander à certaines de ces sites quelles étaient les recherches les plus importantes sur les sites en France. Et il se trouve que, par exemple, le terme beurette arrivait assez souvent France, sur ces sites de recherche porno. Et puis après, des termes effectivement de porno entre guillemets islamique, donc c'est-à-dire où la femme était voilée partiellement ou entièrement. Et donc ça, sur certains sites, on peut trouver des vidéos comme ça, qui sont destinées à un public relativement ciblé, là, pour le coup, avec des fantasmes aussi relativement ciblés.
Donc un marché derrière, etc.
Exactement. Mais là, pour tout vous dire, quand j'ai posé des questions un peu plus précises, plusieurs sites n'ont pas voulu du tout me répondre, parce que visiblement, ils avaient des craintes des réactions éventuelles qu'il pouvait y avoir. Je pense par une frange de la population, pas toute la population qui regarde ce type de vidéo. Et pareil, j'ai eu Marc Dorcel à l'époque, qui lui n'a pas voulu du tout apparaître dans l'article.
Mmh. Marc Dorcel étant un des producteurs de ce type de film. Emmanuel Julien ?
Oui, ça vient aussi de la vivacité de cette religion, parce que en ce qui concerne la religion catholique, au fin 19e siècle, quand la photo est apparue, et tout de suite il y a eu des photos porno, et on mettait en scène des religieuses, des moines, donc voilà.
Et puis on connaît la fameuse histoire, le problème bien connu des prêtres, c'est que lorsqu'ils arrivent sur Facebook, ils mettent leur statut, à savoir célibataire, et tout à coup ils se mettent à recevoir des dizaines de publicités de sites de rencontres, ce qui est normal puisqu'ils sont célibataires. Terminons sur la prostitution, notamment le phénomène des webcams et des camgirls, Emmanuel Julien.
C'est 1 milliard d'euros de chiffre, c'est un marché énorme. Aujourd'hui, il y a des plateformes, en fait, donc pour expliquer, en fait, c'est au carrefour de la prostitution et du porno, puisque ce sont des jeunes femmes qui réalisent des fantasmes, mais en restant derrière leur webcam. Pour des hommes qui sont eux aussi de leur côté derrière leur ordinateur.
Et comment elle le paye, comment elle le rémunère?
Alors on le paye en token, qui est la monnaie pour les sites de camgirl. Et donc on va payer. Alors il y a soit des shows privés, donc vous avez un show privé uniquement pour vous. Donc là c'est à la minute, ça peut être de l'ordre de 4 euros. Enfin j'ai pas les tarifs exact. Et puis sinon, il y a des shows pour plusieurs, comme un peep show ou un club de striptease, où là, vous avez un public très qui peut être assez important. Et là, vous avez des personnes qui vont mettre des tokens pour que, par exemple, la cam girl enlève son soutien-gorge, etc. Et d'autres, ils mettront pas d'argent, mais ils peuvent pas agir. Mais ils restent là en spectateur, quoi. Donc ça, c'est les deux formes de show qui existent sur les
Et puis, bien sûr, il y a après la prostitution, notamment un des effets, des conséquences paradoxales de la loi de la pénalisation des clients qui a été adoptée le 13 avril 2016. Il y a une étude qui vient de paraître qui montre, effectivement, il y a une sorte d'assèchement d'un certain nombre de prostitutions de rue, mais évidemment, une multiplication de la prostitution qui réapparaît sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et là, on voit bien tous les problèmes que ça pose, pour terminer en une phrase.
Le problème de la prostitution sur Internet, c'est que il n'y a pas dans la rue, les prostituées peuvent s'entraider s'il y a des agressions, elles peuvent se surveiller. Sur Internet, elles travaillent toutes seules, elles sont vraiment et en plus les travailleurs du sexe n'ont pas le droit de vraiment communiquer entre eux réellement par des forums, etc. Et puis il y a le problème de la prostitution des adolescentes, puisqu'effectivement avec un smartphone aujourd'hui, les adolescentes peuvent s'inscrire sur ces sites et contacter être contacté par des clients. Donc là, je vous renvoie à un documentaire qui est passé sur France 5 cette semaine, Jeunesse à vendre.
Jeunesse à vendre. Ouais.
Le monde en face, et vous pouvez encore le voir en replay, c'est assez édifiant.
Merci infiniment à vous Emmanuel Julien, merci à vous Emmanuel Paquette. Pour aller plus loin sur ce qu'Internet fait à l'amour et au sexe, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références. Je renvoie notamment à l'ouvrage de Marie Maurice que j'ai lu pour préparer cette émission, ça s'appelle Planète Porn, ça vient de paraître aux éditions du Stock, enquête sur la banalisation du X, Marie Maurice. Toute une série d'articles en anglais ou en français qu'on vous met sur la page de l'émission, site France Culture. Sur la page de notre émission donc sur la pénalisation des clients et les conséquences que ça a, c'est l'enquête bilan sévère par la chercheuse du CNRS Hélène Lebeil. Tout à l'heure j'évoquais un collectif de Judith Duportail, il s'agit du collectif des Journalopes. Puis pour terminer je renvoie aussi à l'ouvrage de Zygmunt Bauman qui s'appelle Liquid Love justement, qui nous a aidé à préparer cette émission et qui évoquait tous ces sujets. Soft Power sur ce qu'Internet fait à l'amour et au sexe, c'est pas terminé, puisqu'on va continuer jusqu'à 20h30 sur ces questions. Dans un instant, 20h, Zoé Sfez.
Je reçois Teddy Truchot qui vient d'arriver en studio et qui est le fondateur du site Glidden, un site qui donc s'adresse à des gens qui ne sont pas célibataires.
C'est ce qu'on peut appeler les sex tech finalement.
On parlait du civic tech,
on parlait du health tech.
Exactement.
Là, c'est le sex tech. Ouais. 20h10, le débat, le numérique et politique. Que peuvent les politiques pour réguler ce qu'Internet fait à l'amour et au sexe? Et nous serons pour en débattre avec Séverin Naudet, ancien conseiller numérique du Premier ministre François Fillon, et Jean-Marc Germain, nouveau secrétaire national du PS chargé de la culture et de l'éducation. On parlera donc de ce que peuvent faire les politiques par rapport à l'ensemble de ces questions. Tout ça à suivre après le nouveau Florence and the Machine sur France Culture.
How deeply are you sleeping, or are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father and he was screaming at me. And I can feel your anger from way across the sea. And I was kissing strangers, I was causing such a scene. Oh, the heart, it hides such unimaginable things. Grab me by my ankles, I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your arrow at the sky.
France Culture 20h01, à l'instant, le dernier titre de Florence and the Machine, Skillful of Songs, premier titre du groupe britannique depuis 2015, qui annonce un quatrième album à paraître en juin. Un premier titre centré sur la voix de la chanteuse Florence Welch, qu'on entend parfois a cappella et parfois sur une mélodie au piano. Florence and the Machine sur France Culture.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfez.
Bonsoir Teddy Truchot.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes notre invité innovation parce que vous innovez, vous êtes entrepreneur, vous êtes investisseur. C'est une chance qu'on vous ait d'ailleurs parce que vous vivez maintenant aux États-Unis. Pour vous présenter succinctement, vous êtes ingénieur de formation, mais aujourd'hui vous êtes à la tête de plusieurs startups que vous avez lancées, notamment Touch Vibes que vous avez revendu, qui fait du web marketing. Vous avez aussi un site de revente de jouets d'occasion. Vous avez toute une foule comme ça. Vous avez des restaurants, je crois, et à Paris et à Los Angeles. Vous avez même un accélérateur de start-up, si je ne m'abuse, qui a été lancé aux États-Unis. Mais vous nous intéressez ici parce qu'en 2009, vous avez, et d'ailleurs je crois que c'était votre première incursion sur ce marché de la rencontre en ligne, dont on a beaucoup parlé pendant une heure et dont on va continuer à parler, avec un site qui a beaucoup fait parler de lui à l'époque, c'était en 2009, et ce site c'est Glidden. Alors Glidden qui, aujourd'hui, donc quasiment 10 ans après, 9 ans après, revendique je crois 4 millions d'utilisateurs, c'est ça ?
4 millions 100 000.
4 millions 100 000, dont 2 millions en France.
C'est ça.
Alors, je vais vous poser cette question très idiote. Pourquoi est-ce que vous, à ce moment-là, vous avez déjà fondé une start-up avec votre frère, qui a plutôt bien marché, vous l'avez revendu, vous avez des fonds propres. Pourquoi est-ce que vous vous lancez sur ce marché de la rencontre en ligne? À l'époque, on est dans un état qui est, dans une configuration qui est un peu différente aujourd'hui. Les choses ont encore beaucoup évolué. Pourquoi vous vous lancez sur ce marché et pourquoi par ce biais, parfois qualifié de provocateur, d'un site de rencontre pour des gens qui ne sont pas célibataires, pour des gens mariés ou engagés?
Alors, nous avons lancé Glidden tout simplement parce que, après avoir revendu une de nos sociétés, on s'est dit maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de passer à la suite. On a étudié un petit peu tout ce qui se fait sur Internet. Il s'avère que la rencontre, c'est un des secteurs qui marche le mieux. On s'est dit, allons-y. Maintenant, pourquoi le côté adultère, le côté infidélité? On a fait nos propres études, on a interrogé des panels. Il s'avère que, à l'époque, les réponses étaient que 30% des utilisateurs des sites de rencontre étaient en couple ou mariés et allaient quand même sur les sites de rencontre. Et ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi pas prendre ces 30% et les mettre sur une plateforme.
Et en plus, peut-être qu'il y en avait plus, parce que c'est des gens qui acceptaient de voilà. Le dire, en tout cas.
C'était 30%, on pense qu'on était à beaucoup plus de 30%, plutôt dans les 40, voire même 50% des utilisateurs sont en couple ou mariés.
Et alors du coup, donc c'était vraiment un constat, disons, pragmatique que vous avez fait.
Absolument.
De réalité. Alors du coup, comment est-ce que vous avez commencé à penser cette question-là? Il y a eu effectivement cette effervescence, ce succès, je ne sais pas si on peut appeler ça, mais ce succès médiatique. De fait, ça a fait le buzz dans le bon et dans le mauvais sens en 2009, au moment où vous avez pré-lancé le site. Comment est-ce que vous l'avez pensé, ce site, pour attirer des gens? Parce qu'on est quand même sur, on l'a dit, quelque chose qui est assez anti-intuitif, parce que le principe aujourd'hui, le site de rencontre repose beaucoup, voire parfois essentiellement, sur la photo. D'ailleurs, c'est une des critiques qu'on peut lui faire. Or, en l'occurrence, quand on propose des rencontres à des gens qui sont déjà engagés, on peut plus aller là-dessus. Puis il y a une question de garantie aussi en termes de sécurité.
On savait qu'en lançant un site comme Glidden, on allait avoir du bruit autour de nous. On ne pensait pas qu'on allait avoir autant de bruit. Parce que le jour de l'annonce du pré-lancement, j'ai eu toutes les caméras en bas de mon bureau. Beaucoup de journalistes de beaucoup de pays sont venus m'interroger. Donc ça a été une agréable surprise et on savait que ça allait fonctionner, pas autant.
Vous vous dites que vous étiez rentable dès le premier mois?
Dès le premier mois, oui, effectivement, on était rentable. On a une plateforme comme Glidden, ça coûte de l'argent, on a investi en fonds propres, mais derrière, c'est pas comme un magasin où on doit acheter de la marchandise, la revendre et dégager une marge. Donc dès le début, on a été très rentable, oui.
Et c'est quoi votre modèle économique alors, du coup?
Aujourd'hui, c'est un site qui est gratuit pour les femmes. Donc ce sont les hommes qui payent pour les femmes et on vend des crédits. Donc vous achetez un pack de crédits et vous utilisez vos crédits pour communiquer avec les femmes.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez envoyer quoi? Alors selon les sites, on peut envoyer des charmes, des cœurs, des likes, c'est quoi pour vous?
Concrètement, aujourd'hui, ces crédits, on peut les utiliser sur Glidden pour communiquer, donc initier une conversation ou lire des messages, et aussi envoyer des cadeaux virtuels. Donc un cadeau virtuel, ça vous permet de vous démarquer, vous pouvez envoyer un diamant, une lune, un bouquet de fleurs virtuels pour vous démarquer.
Comment est-ce que vous faites pour garantir une certaine forme de sécurité à vos utilisateurs, tout en faisant en sorte qu'ils arrivent quand même à se démarquer et qu'on voit qui ils sont?
Alors déjà sur Glidden, on n'a aucune information de nos utilisateurs. On n'a ni prénom, ni nom, pas de numéro de téléphone, Facebook Connect ou autre, tout ça, on n'a pas. Ce qu'on va retrouver, c'est une adresse email, mais ce qu'on recommande à chaque fois à nos utilisateurs, c'est créer une adresse email qui n'est pas la vôtre. Enfin, utiliser une autre adresse email pour le site. Derrière, les utilisateurs ne sont pas obligés de mettre une photo, comme vous l'avez précisé. Ils peuvent mettre une photo de leur profil un peu flouté. Et derrière, on a aussi un album de photos privé qui permet de mettre des photos plus du visage et dont les utilisateurs pourront donner l'accès une fois la discussion entamée et validée.
Alors justement, aujourd'hui, vous êtes présent en France, vous êtes présent ailleurs dans le monde, vous êtes présent notamment, vous m'avez dit, en Suisse, en Italie, en Belgique, ça marche très bien en Italie. Vous me disiez, est-ce que vous avez compris qui sont vos utilisateurs, notamment sur cette question de la proportion homme-femme dont on a parlé, qui est souvent, on l'a dit parfois, largement, il y a une forme d'opacité de la part de certains sites sur ces questions-là. On s'est rendu compte notamment au moment du hacking de Ashley Madison, qui était un peu votre équivalent aux États-Unis, qu'en fait, il y avait
beaucoup moins de femmes que ce que le site prétendait avoir. Il y a beaucoup plus d'utilisateurs que d'utilisatrices. Vous, vous êtes sur quel type de proportion? Si vous acceptez de nous donner des chiffres qui sont les bons, on vous croira de toute façon.
Pas de problème. Alors contrairement aux autres, on est loin de se vanter, de dire on est à 50-50. Alors est-ce que 50-50 est vrai ou pas? J'en doute. Nous, on est plutôt sur du 65% d'hommes sur le site. Comme je vous l'avais précisé, je pense que c'est plus facile pour un homme d'aller s'inscrire sur un site de rencontre de ce type. Mais 65% d'hommes, c'est quand même un bon ratio pour nous. Au niveau de qui est inscrit sur le site, aujourd'hui, les chiffres, donc la moyenne d'âge, c'est 37 ans. Les métiers les plus pratiqués sont donc avocat, banquier, architecte ou encore vétérinaire, c'est ce qu'on retrouve sur notre site. Et ils gagnent des salaires compris entre 55 000 et 75 000 euros par an.
Parce que vos utilisateurs, vous l'avez dit, il y a très peu d'informations, il n'y a pas d'informations réelles, en tout cas, vous leur conseillez d'en pas en mettre, mais par exemple, ils peuvent renseigner évidemment leur fantasme, ils renseignent évidemment leur statut marital, mais ils peuvent renseigner leur niveau de revenu.
Absolument.
Quel est le but là-dedans? Ça, c'est juste.
Je pense que c'est comme dans la vraie vie. Hein. Je gagne ça, j'essaye de te plaire peut-être grâce à ce que je gagne aussi.
Et alors justement, ce site qui marche donc plutôt bien, est-ce que vous avez des velléités de le revendre? Parce qu'on sait qu'il y a ce fameux terme d'ubérisation constante, on sait que Mythique a été racheté, on sait que la plupart des entreprises qui fonctionnent bien sont rachetées. Est-ce que vous êtes intéressé par ces questions de rachat ou est-ce qu'au contraire vous comptez continuer vous?
Alors c'est un site qui fonctionne très bien, est-ce qu'il va durer toute notre vie? Je ne sais pas. On est régulièrement approché par des sociétés. Je pense que effectivement, si une offre est intéressante, pourquoi pas.
Et alors, justement, vous n'êtes pas, vu que vous êtes entrepreneur, vous êtes lancé dans d'autres aventures de start-up. Vous avez notamment lancé aux États-Unis et pas en France un film qui s'appelle un site qui s'appelle Check Him Out. Donc, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français? To check someone out, c'est le regarder un peu, quoi, on va dire.
Alors, on a ça et on a aussi le. Alors, c'est un jeu de mots entre ça et. On passe à la caisse. On met l'homme dans le caddie et on passe à la caisse.
C'est évidemment, l'homme dans le caddie, c'est parce que vous avez adapté le concept qui n'était pas le vôtre d'adopter un mec pour les États-Unis.
C'est exactement ça. Voilà.
Donc qu'est-ce qui marche dans ce concept-là, qui est un peu pas à l'opposé, mais qui est très différent de celui de Gliden?
Je pense que la plupart des le problème général des sites de rencontre, c'est que les femmes sont harcelées. Le succès d'Adopte un mec, ça a été justement de mettre la femme en avant et de dire allez, on choisit, c'est la femme qui va choisir et qui va décider qui elle a envie de parler.
Et ça marche aux États-Unis, ça, parce que ça manquait.
Ça marche très bien. Il y a un très gros site qui est très proche de Tinder, qui s'appelle Bumble, qui a aussi repris le principe et qui est maintenant lancé en France et qui fonctionne sur le même principe. Ouais.
Une dernière question de ce point de vue-là, justement, je sais que vous avez d'autres projets, pourquoi pas, de start-up qui sont aussi liés toujours à la rencontre en ligne. C'est un secteur qui se segmente beaucoup. Est-ce que vous allez aller dans ce sens-là? Et deuxième question, est-ce qu'il y a un vrai savoir-faire français en la matière? Parce qu'on a l'impression qu'en France, les applis qui marchent sont françaises et que vous faites partie des gens qui, par exemple, lancent des projets aux États-Unis. Donc, est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce qu'ils vont dans le sens de la segmentation? Dans quel sens vont-ils? Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un savoir-faire français reconnu sur cette place-là?
Alors, je pense que oui, il y a un savoir-faire français, parce que bon, on le voit, Mythique, ça a été un des pionniers qui s'est fait racheter. Même Adopte un mec, c'est quand même aussi un très gros succès, Gliden en est un autre. On est en train de lancer un nouveau site, pareil, alors c'est plus un site de niche qu'on lancera pour la rentrée, pour septembre.
Parce que c'est quoi? C'est la niche qui peut marcher maintenant?
Je pense,
c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a plus grand chose à faire sur le général.
Des millions à dépenser, ça, c'est difficile d'aller concurrencer un Tinder, d'aller concurrencer un Mythique ou autre.
Dernière question, juste sur la question des données. Est-ce que c'est quand même un enjeu énorme, la question des données? On l'a entendu tout à l'heure dans cette interview. Évidemment, avec des hackings, avec toute une foule de questions que ça pose, est-ce que vous avez conscience, et notamment, est-ce que vous mettez concrètement, financièrement, les moyens sur ces questions-là?
Bien sûr, on est très souvent analysé par des organismes pour la sécurité. Mais comme je vous l'ai dit, on n'a rien, on n'a aucune information, à part des adresses e-mail.
Merci beaucoup, Teddy Truchot, fondateur de Gliden et pas que.
Le temps de vous dire que les audiences de Médiamétrie viennent de tomber, que les résultats de France Culture sont encore en progression, avec notamment 2,3% d'audience cumulée le week-end. Alors on n'en parle jamais, mais là on voulait le saluer. Un record avec plus de 1,2 million d'auditeurs chaque dimanche. Merci à vous pour votre fidélité.
Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
Comme chaque dimanche, le débat de Soft Power, le numérique et politique. Chaque dimanche, nous recevons deux élus ou deux figures politiques, de camps opposés bien sûr, qui débattent des régulations et des politiques publiques consacrées au numérique. À ce micro régulièrement, vous avez Romain Pigenel, ancien conseiller du président François Hollande, Christian Paul, ancien ministre, ancien député PS, Nicolas Prinsen, ancien conseiller numérique de Nicolas Sarkozy, Gaspard Koenig, philosophe, ancienne plume de Christine Lagarde, Laure de la Rodière, député Les Républicains, Jean-François Césarini, également député La République En Marche, Gaël Duval, entrepreneur et proche de La République En Marche, Elliot Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG Le Mouvement, Paula Forteza, député La République En Marche, Hugo Bernalicis, député La France Insoumise, Éric Botorel, député La République En Marche, Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture de Jacques Chirac et Sébastien Chenu, député du Front National. Il fallait de temps en temps rappeler le nom de tous ces élus ou de ces responsables politiques qui nous rejoignent le dimanche pour cette chronique, pour cette section. Et ce soir, j'accueille Séverin Naudet, ancien conseiller numérique à Matignon, conseiller en innovation au cabinet de conseil Tilder. Bonsoir.
Séverin. Bonsoir Frédéric.
Tilder, on dirait d'ailleurs un site de rencontre.
Oui, je préférerais que ça soit un site de rencontre. et je ne me sens ni une personnalité politique et je n'ai jamais été élu, mais je suis ravi d'être là.
Voilà. Et Jean-Marc Germain, ancien député des Hauts-de-Seine et tout nouveau secrétaire national du PS chargé de la culture et de l'éducation dans l'équipe d'Olivier Fort. Bravo pour cette nomination et merci de rejoindre l'équipe des débatteurs de Soft Power.
Merci, bonsoir.
Alors ce soir, le numérique et politique, le débat est consacré à ce qu'Internet fait à l'amour et au sexe. Que peuvent faire les politiques? Que peuvent-ils faire pour réguler ces secteurs? Alors on parle depuis déjà plus d'une heure de ce qu'Internet fait à l'amour. On a vu que de nouvelles formes d'abus sont apparues avec Internet et on s'intéresse donc à ce que peuvent faire les élus, ce que peut faire l'État sur ces sujets pour protéger les citoyens du harcèlement type revenge porn à la diffusion de contenus pédopornographiques. Mais pour commencer, parlons peut-être de sites pornographiques. Le problème, c'est leur facilité d'accès. Les mineurs y vont en moyenne pour la première fois à 14 ans et certains consultent ces contenus bien plus jeunes selon un certain nombre d'études récentes, ce qui peut entraîner des problèmes dans la construction de leur sexualité ou des rapports entre hommes et femmes. Et on a vu aussi qu'un certain nombre de problèmes se posaient dès le collège avec la difficulté qu'ont les proviseurs, qu'ont les directeurs d'école à réguler et à contrôler ce qui se passe avec tout un tas d'enfants, d'adolescents qui se font harceler en raison de photos nues ou parfois même de films qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Jean-Marc Germain, pour commencer, où en est-on? Qu'est-ce qui existe déjà et qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Je crois que la principale chose à faire, parce qu'on aura l'occasion d'en dire un mot, mais la législation est assez complète. La diffusion de contenus intimes concernant la vie privée, quel que soit l'âge, qu'on soit adolescent ou adulte, est interdite et fortement pénalisée. La première chose à faire, c'est l'éducation, parce que ces médias, au fond, via un simple clic, qui d'ailleurs crée une confusion. On ne sait pas trop si on est en train d'envoyer un SMS ou si on est sur Snapchat ou si on est dans des réseaux totalement publics, sur son Facebook avec un petit cercle ou sur un autre réseau. Et au fond, il y a une porosité entre la sphère totalement privée, la sphère privée et la sphère publique. Et je crois, notamment pour les plus jeunes, que la première chose à faire, c'est l'éducation. L'éducation à l'école, il y a de l'éducation sexuelle. Il doit y avoir maintenant de l'éducation à ces nouvelles pratiques sexuelles dans ces cours-là. Moi, j'ai un fils qui a 16 ans, je l'ai suivi dans sa scolarité. Jamais il y a eu cela. Non, je crois que l'éducation nationale, même s'il y a eu des progrès qui ont été faits, notamment par Najat Vallaud-Belkacem, quand elle était ministre de l'Éducation nationale sur la question du harcèlement, qui comprenait ces questions de harcèlement sexuel que vous avez évoquées plus tôt dans l'émission. Elle a créé par exemple une journée où on doit parler des questions de harcèlement, mais l'éducation à l'école est totalement fondamentale et je crois que c'est même la principale chose à faire parce que le risque avec toutes ces nouvelles pratiques et leurs aspects positifs. Vous en avez beaucoup parlé, permettre de nouvelles rencontres, des échanges à l'autre bout du monde ou de milieux sociaux très très différents. La pire des choses, ce serait de poser des interdits parce qu'on en aurait peur. Et donc, il faut laisser ces libertés, ces nouvelles possibilités s'exprimer. Et en même temps, quand il y a des dérives, il faut les réprimer, mais en commençant par permettre aux uns et aux autres, aux enfants, aux parents aussi, hein, parce que les enfants savent peut-être mieux, ou les adolescents mieux que nous, ce qui passe dans leurs écoles, dans leurs téléphones portables. Les parents aussi doivent être informés. Votre émission y contribue.
C'est vrai, Naudet ?
Oui, je crois que c'est, enfin, de manière très très large, en fait, ce dont on parle souvent ici et qui est l'objet de l'actualité régulièrement en ce moment, c'est comment on s'adapte au nouveau monde dans lequel on vit, où les usages sont en profonde mutation et où personne ne passe de permis pour utiliser Internet et ses différentes applications, et en fait, personne ne sait véritablement ce qu'il fait quand il commence à les utiliser. Et c'est un sujet qui est largement au-delà de ces applications là, de rencontres, des applications qui sont détournées pour échanger du contenu pornographique. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde qui a profondément changé, une société de l'information qui est radicalement différente, dont on ne maîtrise pas complètement les codes, les usages, et il faut vraiment très très vite former toute une génération à ces applications pour la préserver. Et puis il y a un deuxième sujet dans votre question en fait de départ, Frédéric, c'est vous parliez d'accès aux sites pornographiques. Alors je suis pas un spécialiste du sujet, mais si je ne me trompe pas, le vrai sujet aujourd'hui ce sont les agrégateurs. Oui. Ce sont pas les sites, parce qu'en fait les sites nationaux, j'allais dire les sites de porno français, je sais pas si on prend Marc Dorcel par exemple, ils restent la législation. Vous êtes obligé de rentrer une carte de crédit, de rentrer donc une date de naissance, etc. etc. Le vrai problème, ce sont les agrégateurs
de type YouPorn, etc.
Exactement, qui en fait font de l'argent sur du trafic, donc ils ont exactement le même modèle économique que tout un tas d'agrégateurs, sur du contenu illicite par ailleurs, qui n'est pas le leur, et qui eux ne demandent rien, et c'est les sites pour lesquels il est le plus facile d'accéder à du contenu.
Au moment de la Saint-Valentin, cette année, il y a eu deux sites pornographiques, dont X-Hamster et YouPorn, qui ont proposé, et c'était assez intéressant de le voir, des vidéos dites d'éducation sexuelle. C'est-à-dire que c'était des vidéos pas pornographiques, mais qui s'adressaient notamment à des femmes, à des hommes, sur comment faire jouer quelqu'un. C'est poser la question très bête de se dire pourquoi ce type de site n'existe pas en dehors, disons, de ces deux semaines et sur des sites pornographiques. Il y a un site qui s'appelle Oh My God Yes, qui commence à plutôt bien marcher, qui est payant, qui coûte 35€ et qui est un site destiné aux femmes, avec des vidéos, hein, qui clairement montrent du contenu explicite. Et c'est posé la question, à un moment donné, je lisais une tribune d'une femme qui disait, mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas, par exemple, au gouvernement d'investir Internet avec de la vidéo explicite, puisque tout le monde le fait, en fait, finalement, sur le grand oublié, peut-être, de l'amour et du sexe sur Internet, ce serait des vidéos ou des contenus explicites d'éducation sexuelle, qui pour le moment n'existent pas.
Non, je voulais juste faire un parallèle avec un autre sujet dont on parle beaucoup, qui sont les sites de fake news en fait. On se focalise sur le contenu que ces sites mettent en avant, et en fait c'est pas du tout le sujet de ces sites. Le sujet de ces sites, c'est de monétiser du contenu à très forte audience, peu importe la qualité de ce contenu et les dégâts qu'il cause aux gens qui les consultent, qui les regardent, pour gagner beaucoup d'argent. Donc il y a des mécanismes derrière, et c'est à ça qu'il faut s'attaquer en réalité.
Jean-Marc Germain.
Oui, il faut, je le disais tout à l'heure, à la fois permettre ces nouvelles opportunités, mais se dire que le législateur, qu'il soit français ou européen, a son rôle à jouer. Moi, j'étais parlementaire, vous l'avez rappelé. J'ai voté une loi qui est tout à fait essentielle, suite d'ailleurs à une décision un peu surprenante de la Cour de cassation sur la question du revenge porn. Un contenu intime qui avait été fait de manière consentante entre un couple, mais qui avait été diffusé par l'un sans l'accord de l'autre.
Ce qui est tout à fait illégal. Oui.
C'est devenu illégal, oui, parce que nous avons voté cette loi dans la loi sur la République numérique d'Axel Le Maire en 2016, mais la Cour de cassation avait décidé le contraire. Donc vous imaginez...
Selon quel critères ?
Selon, toujours la même chose, c'est la liberté, il y a eu un consentement à un moment, et la photo, elle appartient aux deux, elle n'appartient pas
qu'elle appartient
à l'un ou à l'autre.
Pourquoi pas, mais de la diffuser...
Et donc c'était surprenant, mais ça montre aussi, dans l'esprit des juges de la Cour de cassation, je ne les mets pas en cause en disant ça, mais leur représentation de la société. Et donc il fallait légiférer, et maintenant les choses sont claires. Et les choses, il faut les apprendre aux enfants. Si vous demandez à des adolescents de 13, 14, 15 ans, est-ce que je peux diffuser une photo qui a été prise de manière consentante avec mon petit copain ou ma petite copine, ils ne savent pas. Donc il faut leur apprendre la règle, et c'est très important, et leur dire ensuite, quand ils sont sur tel ou tel outil informatique, ce que va devenir leur contenu, parce qu'ils ne savent pas forcément. Vous avez fait tous l'expérience avec vos enfants de leur dire, tu mets ta photo sur Facebook, c'est pas grave, t'as une quinzaine d'amis, mais si t'as un des amis sur les 15 qui la rend public, à ce moment-là, tu peux être en difficulté vis-à-vis de cette photo si tu ne souhaites pas qu'elle soit diffusée. Il y a une autre loi très importante et qui rejoint ce qu'on vient de dire, parce que le sujet, et moi j'ai été confronté en tant que directeur de cabinet au Parti Socialiste, parce que, vous savez, les hommes publics sont diffamés. Et donc, on avait mis en place une protection pour pouvoir juridiquement les défendre lorsqu'ils étaient indûment mis en cause sur tel ou tel sujet. Et parfois, c'est totalement farfelu, parce que quand vous êtes candidat à de hautes fonctions, la bataille politique fait que vous pouvez être attaqué très fortement. Et on s'est heurté à un mur, notamment venant de Google, qui refusait, vous savez, quand vous tapez sur Google le nom d'une personnalité politique, il y a un autre mot qui est associé. Oui. Et cet autre mot peut être
alcoolique, juif,
salafiste ou tout ce que vous voulez. Eh bien, on a demandé à tous les fournisseurs d'accès et tous les opérateurs de retirer ces associations, ils ont accepté, sauf Google. Et Google y a été contraint par quoi ? Par une directive récente de 2016 de l'Union européenne, parce que face à notre poids économique, Google a dû céder, alors qu'il ne le faisait pas face à des particuliers que nous étions, qui donne maintenant un droit au déréférencement. Alors, ça va être très important. Vous pourrez obtenir la suppression d'une association de mots-clés, parce que c'est quoi une association de mots-clés ?
C'est déjà une information.
C'est plus, Google n'est plus quelque chose de statique qui met à disposition des informations que vous pourriez souhaiter avoir. Est-ce que Jean-Marc Germain est alcoolique, par exemple ? Ça peut vous intéresser. Je ne sais pas trop pourquoi, mais pourquoi pas.
Pas ce soir.
En revanche, chaque fois que vous tapez Jean-Marc Germain, si ça vous dit Jean-Marc Germain alcoolique, et puis ça vous met des contenus farfeliques, ça pose un problème, parce que Google ne devient plus simplement un réceptacle de contenu, mais un diffuseur. Ça devient un média. Et un média comme France Inter ou audiovisuel ne peut pas, évidemment, faire ce genre de...
Mais Jean-Marc Germain, vous dites des référencements. Il y a aussi, tout simplement, la question de l'effacement, qui est tout à fait autre chose.
Oui, et ça, c'est moins clair, puisque cette directive est très générale. Donc, elle traduit un droit général à l'oubli. Mais son interprétation fait qu'aujourd'hui, quand vous demandez à Google, par exemple, l'effacement de certains contenus, ça peut vous être refusé. Et d'ailleurs, le débat est plus complexe sur le droit à l'effacement, parce qu'en même temps, il y a un droit à l'information. Si vous avez commis, je reprends toujours mon exemple, tel ou tel délit et que vous vous présentez à un mandat devant les électeurs, il peut, surtout s'il n'a pas été prescrit, être justifié légitime, d'être informé que, par exemple, vous avez commis un abus de bien social. Donc cet équilibre est très difficile à maintenir, mais je trouve que, par exemple, sur le droit de la presse, on y arrive. C'est-à-dire que quand vous êtes diffamé, quand il y a des photos intimes qui sont révélées par un média qui a pignon sur rue, alors il est condamné et à payer des indemnités. Simplement, il y a une deuxième difficulté, donc il y a la question de l'effacement de données qui seraient fausses ou qui seraient diffamatoires ou blessantes ou injurieuses, et puis il y a les délais. Et ça, pour le coup, j'évoquais la loi de 2016
un procès, sur le revenge porn. Un procès, c'est une année au minimum.
Bien sûr que le droit existe et il est très sévère. Hein. 60 000 euros, 2 ans d'emprisonnement si vous avez diffusé une photo intime avec votre ex-conjoint ou ami. En revanche, ça va prendre plusieurs mois. Et vous évoquiez plutôt dans l'émission des cas très difficiles d'adolescents qui ont dû changer d'établissement, voire qui ont été conduits au suicide. Donc il faut que... Moi, je souhaiterais qu'on ait un droit et qu'ils puissent statuer en référé. 24 heures, 48 heures, il y a tout un pan du droit public qui le permet. Et ces sujets-là, ils sont tellement blessants, tellement lourds de conséquences pour les personnes qu'il faudrait statuer dans ces délais-là.
C'est vrai, Naudet.
D'abord, pour revenir sur un point précédent, on peut aussi se poser la question de l'utilité d'avoir des adolescents de 13 ans ou de 14 ans avec des smartphones. C'est peut-être la première question qu'on peut se poser.
Ouais, enfin, ça va être difficile de changer ça.
Oui, mais bon. c'est quand même un vrai sujet. En réalité, on l'a bien vu ces dernières semaines avec la gestion des données personnelles des uns et des autres. Est-ce que l'éducation commence pas par savoir quel outil on peut mettre dans les mains des adolescents, des enfants et des adolescents? Ensuite, effectivement, il y a la notion du temps réel, où le droit et les mécanismes du droit et les moyens d'ailleurs que la justice a pour réagir sont pas du tout adaptés au temps réel. S'il faut que la justice se mette à décider en référé de tous les cas qui vont lui être présentés dans les prochaines années, il va y avoir un problème de moyens à mettre en face, clairement. Et puis, il y a un vrai sujet de protection des données dont vous avez parlé pendant le début de l'émission.
Et alors là, il y a le 25 mai, le Règlement général de protection des données personnelles, dit RGPD, voté par l'Union européenne en 2016, s'appliquera. Et là, c'est sans doute aussi une solution, très brièvement, Jean-Marc Germain.
Oui, bien sûr, essentiel. Et on voit que l'Europe, qui est souvent dénigrée, elle peut apporter de grandes choses, notamment quand il s'agit de s'attaquer à des géants comme Google et autres.
Et donc, on est plus fort ensemble.
La réponse, c'est toujours le droit supranational sur ces sujets. C'est ce qui permet de régler le sujet des agrégateurs dont on parlait tout à l'heure, par exemple.
Et puis après, dernier point, vous avez des opérateurs qui sont de bonne volonté. Moi, je l'ai vu sur plein de sujets comme Twitter, par exemple, qui souhaitent l'effacement, qui souhaitent protéger les utilisateurs, mais qui manque cruellement de moyens. Il y a une dizaine ou une quinzaine de personnes qui sont là pour faire de la régulation au plan mondial des contenus sur Twitter. Donc vous voyez bien que même quand la volonté est là, il faut y mettre les moyens.
On se quitte ce soir avec un titre de DJ Avicii, dont on a appris le décès ce vendredi à seulement 28 ans. Timberling, de son vrai nom, était l'auteur de nombreux tubes planétaires comme Wake Me Up, qu'on écoute à l'instant. Le plus célèbre d'entre eux, qui avait été vu plus d'1,5 milliard de fois rien que sur YouTube. Voilà. Pour aller plus loin sur ce qu'Internet fait à l'amour et au sexe, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur Twitter au mot-clé Soft Power et vous abonner au podcast de l'émission sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Dimanche prochain, je recevrai Pedro Winter, on y arrive, ancien manager de Daft Punk et producteur de Justice, pour une émission consacrée à la French Touch et au nouveau modèle économique de la musique. Bonne soirée. Merci à vous deux. Merci à Séverin Nodin. Merci à Jean-Marc Germain. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et merci à vous, Zoé Sfez.
Merci, Frédéric.